Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une autre belle émission, Mission Vision. Et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de recevoir deux belles personnes, Rémi Deloum, acteur, comédien, et on va pouvoir jaser avec lui de l'handicap visuel, parce que c'est mon premier invité qui n'a pas d'handicap visuel, mais qu'on va aborder quand même. Qu'est-ce que c'est perdre la vue? On va se prêter au jeu, en fait, ensemble. Et tout de suite après, dans l'autre segment, je vais recevoir Sylvie Castonguay, qui est directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, parce que le mois de février, c'est le mois de la sensibilisation à la DMLA. On va en parler avec elle après. Mais là, tout de suite, je reçois Rémi. Allô, Rémi?
Allô?
Rémi, moi, en fait, d'entrée de jeu, je vais juste dire un petit peu, premièrement, d'où on s'est rencontrés, parce que on a eu un petit contact ensemble dans un moment que j'allais me chercher un café. Hein? C'était pas prévu. Je suis allée sur un petit café, l'Étincelle, que j'ai découvert comme ça, là, ça fait pas très longtemps. Et finalement, on s'est mis à jaser. Hein? Je t'ai posé des petites questions et je sais pas comment c'était venu sur le sujet, mais je t'ai parlé un petit peu des. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui sont en situation de handicap et tout ça? Et on s'est mis à jaser. J'ai vu que tu avais naturellement une grande ouverture, une grande sensibilité là, par rapport à l'handicap. Il y en a des personnes autour de toi qui en ont. Et là, après ça, je me suis dit, ah, je pense que ça pourrait être le fun s'il venait dans mon émission et qu'on s'amusait finalement à discuter de la perte de vision, même si ce n'est pas ton cas. J'ai vu que t'avais cette ouverture-là et t'as dit oui, je vais venir, ça va me faire plaisir. Mais je veux dire d'abord que oui, t'es comédien, acteur et tout ça, mais t'es propriétaire, c'est ça, du café L'Étincelle. C'est là que je t'ai rencontré, en fait, derrière le comptoir, quand tu me servais un café.
Exactement, c'est là que tout a démarré.
Tout a démarré, c'est ça. Et là, t'es là dans mon émission et je suis vraiment contente parce que on va juste dire un petit peu, tu es qui? Donc, tu es comédien.
Oui.
Mais ça ressemble un peu à quoi, ta formation?
Alors, ma formation, je suis comédien professionnel depuis bientôt 22 ans. Mm-hmm. J'ai commencé mon parcours sur l'île de la Réunion.
Oui.
Je suis parti ensuite du côté de Paris. Oui. J'ai fait une partie de ma formation là-bas. J'ai commencé à travailler à Paris. Et j'ai émigré au Québec il y a un peu plus de 16 ans maintenant.
Oh, quand même!
J'ai une carrière un petit peu hybride parce que je suis pas quelqu'un qui fait une seule chose. En tout cas, mm-hmm. je suis pas quelqu'un qui aime attendre en général.
Mm-hmm.
Donc, j'ai travaillé sur des projets, j'ai fait de la musique, j'ai fait du coaching d'acteurs, j'ai eu la chance de travailler sur des beaux projets ici au Québec qui m'ont donné le goût de davantage découvrir le Québec, puis à terme de rester, m'installer et y donner naissance à mon premier enfant. Donc,
oui.
Toutes ces petites choses-là ont fait que ma vie s'est construite ici petit à petit. Et de fil en aiguille, j'ai eu un rêve un peu fou que j'avais quand j'étais gamin, qui était de partir un petit café de famille, si un jour c'était possible. Cette opportunité-là s'est présentée et on a mis tout à plat sur la table et est né il y a 9 ans le Café L'Étincelle dans Rosemont Petite Patrie.
Oui, tout petit café, mais tellement chaleureux.
Merci.
Donc, ça veut dire que toi, à ce moment-là, tu rêvais d'avoir le projet où est-ce que tu es propriétaire du café. Et en parallèle de finalement faire finalement différents projets au niveau artistique.
Complètement. Mais en fait, ça fait partie de ma formation. Ne travailler que en spectacle, en cinéma, en théâtre, c'est super. Mais je pense qu'il y a une phrase sur le fronton d'une école de théâtre en France qui dit « T'en vaut l'homme avec un grand H », mm-hmm. ça inclut évidemment les femmes, il dit « T'en vaut l'homme, t'en vaut le comédien ». Je suis pas mal d'accord avec ça. Je pense qu'on a besoin d'avoir des parcours qui sont riches et diversifiés pour apporter à la scène des expériences qui sont plus intéressantes, plus riches, qui permettent d'aller chercher aussi un plus vaste public et des expériences qui sont plus intéressantes pour nourrir en fait les personnages qu'on va être amené à interpréter.
Oui.
Donc j'ai toujours, tout le long de mon parcours, essayé de travailler des personnages en lien avec soit des métiers que j'avais faits, soit des métiers qui m'intéressaient ou qui me donnaient l'opportunité d'aller découvrir des professions que j'aurais pas forcément abordées. Donc je trouve que ça nourrit énormément les personnages, ça donne le petit jeu, le détail, qui fait qu'on vient chercher une vraisemblance et une crédibilité, il me semble, plus intéressante et plus importante. Donc l'idée de combiner, pour moi, des activités, c'était toujours le moyen de mélanger tout ça et puis d'apporter des expériences, des interprétations plus riches.
Et de là, comme tu es dans ce milieu-là, tu sais, de faire des personnages et tout ça. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était comme parfait de te prêter au jeu parce que ben, c'est un peu ça. C'est comme si là, on va jouer à OK, ben, qu'est-ce que serait ma vie si j'avais une perte de vision? Parce que dans le fond, ce n'est pas ton cas, tu n'as pas de problème au niveau visuel. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont un handicap visuel?
Visuel, oui, dans le sens où des maladies type dégénérative, type sclérose en plaques, qui ont ce type d'effet. Deux personnes que j'ai côtoyées dans mon parcours. Les deux personnes, en plus, étaient associées à la création, donc ça m'a forcément interpellé. C'est évidemment une peur, le handicap, parce que c'est une méconnaissance à la base, c'est souvent ça. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on est amené à créer ou recréer ou se transformer, ou est-ce que c'est encore possible de créer quand on a ce type de handicap. L'une des personnes adorait écrire de la poésie, donc adaptation, mais également la broderie, donc des choses qui sont très dans le toucher aussi et le visuel. Et la seconde personne était une photographe d'ailleurs reconnue dans son travail, sa composition, donc le support visuel est hyper important. Donc ça, j'ai également eu des personnes avec beaucoup de situations aussi de handicap en sourd et malentendant qui m'ont aussi amené à des découvertes passionnantes parce qu'il y a des moyens d'intégrer en fait le handicap qui est extrêmement intéressant, je trouve, pour des personnes qui sont considérées comme non handicapées. Et je trouve que c'est ça part de l'humain qu'on est et la manière dont on veut en fait l'amener petit à petit. Ça demande surtout un truc qui est très important, je pense, et avec lequel on a du mal actuellement, qui est le rapport au temps. On est dans un... Ça demande... Le handicap veut dire adaptation, veut dire prendre le temps. Donc, on est dans l'inverse de tous les mots comme l'efficacité, la surefficacité. Donc, ça vient chercher naturellement l'humanité qu'on a avant. Et je préfère qu'on soit davantage dans un souci d'humanité que dans un souci de vitesse. Je pense que c'est plus important d'être humain qu'être rapide, en fait.
Oh, je trouve ça tellement beau parce que, en fait, c'est un peu ça qui est question quand on perd la vue, parce que la vue, c'est quelque chose qui est, on va dire, qu'on peut prendre pour acquis. Parce qu'en ce moment, tu vois, et il n'est pas question que demain matin, tu perdes la vue, mais en même temps, il n'y a rien qui te garantit de ne pas la perdre demain. Parce que souvent, on a l'impression, quand on a un handicap visuel, un peu comme si c'est « Ah, ben, tu sais, c'est ta vie à toi, donc ta condition, moi, je vois bien. Moi, mes yeux voient bien, donc, bon, tu sais, je ne vais pas trop penser à ça pourrait être quoi, tu sais, ton quotidien. » Et moi, souvent, les gens autour de moi, c'est ça, je leur dis, « OK, mais j'ai dit, là, c'est beau, tu as plein de projets dans ta vie, là, tu as une belle vie, tu travailles, tu as des enfants, tu vas porter tes enfants à la garderie, tu reviens, tu fais tes repas. OK, mais demain matin, là, tu te lèves, là, tu sors de ton lit, là, tu vois plus, là. »
Oui, oui. Je pense
qu'est-ce
en plus,
qui se passe?
Exact. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi très différent. Les personnes qui n'ont jamais vu et les personnes qui perdent la vue, on est aussi sur deux types de handicaps qui sont très différents. Parce que je pense que, humblement, j'ose dire que le cadre de référence n'est pas le même.
Non.
Pourquoi j'ai une sensibilité particulière à ça et au lien avec le handicap? Ou en tout cas, c'est pas une tolérance, c'est juste une manière d'aborder en fait une rencontre. Pour moi, que la personne soit handicapée ou pas, c'est une rencontre avec une personne qui arrive avec un certain bagage. Et j'ai eu l'occasion et l'opportunité en fait très tôt, dès l'école de théâtre, de travailler en fait des expériences à notre petit niveau, parce qu'on fait des expériences type sensorielle dans la plupart des écoles, des exercices qu'on appelle exploration. Qu'est-ce que c'est que travailler une scène avec les yeux fermés? Qu'est-ce que c'est que... J'ai un souvenir d'un exercice que je faisais avec un ami de jeune théâtre, je suis jeune étudiant théâtre, je pense que j'ai 17-18 ans, et on faisait un exercice qui peut paraître très simple, qui est de marcher jusqu'au métro, entre l'école de théâtre et le métro, chemin qu'on a pratiqué tous les jours pendant des mois et des mois, et puis d'un coup on se dit, je ferme les yeux et c'est toi qui m'accompagnes, tiens juste le bras. Je pense qu'à ce jour, ça reste l'un des exercices que j'ai fait sur lequel j'ai eu l'un des plus grands moments de fébrilité, parce qu'il y a une vulnérabilité liée à ça. On est confronté à tous les autres sens qui sont démultipliés. On était dans une ville comme Paris qui est extrêmement bruyante, très active, des sons qui sont surprenants. on est obligé d'avoir une confiance à 100% dans son partenaire. C'est tout bête parce que lui, il devient nos yeux, mais il n'est pas forcément nos pieds.
Ouais.
Donc, ça m'a mis, je me rappelle d'avoir, pour ne pas être quelqu'un qui sue énormément, je me rappelle être arrivé trempé au métro, qui était un chemin d'une dizaine de minutes, mais c'était une épreuve, je suis sorti vidé. On aurait fait un calcul du combien de calories j'ai perdu sur la période, je pense que ça aurait été très intense.
Oui.
Mais, donc ça a commencé par une expérience comme ça qui m'a marqué. J'ai eu une seconde expérience ensuite, je me rappelle, avec une étudiante qui s'appelait Christelle, qui elle était malentendante.
Ok.
Et je voyais son envie de jouer qui m'avait vraiment frappé, et le fait de son handicap de surdité ou de très forte malentendance faisait qu'il y avait une énergie de vie, quelque chose qui était très différent des personnes dites classiques, plus sans handicap en fait.
Ouais.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé d'interpréter sur scène, sous forme d'improvisation, une scène de crise conjugale. Ce qui est très intéressant parce qu'on se retrouve avec un conflit qui est très fort dans la scène et en même temps un conflit à cause du handicap.
Oui.
Donc mon interprétation était comment est-ce qu'on peut utiliser le handicap pour que la scène fonctionne. Et en fait, le meilleur moyen, c'est d'intégrer le handicap. Si j'ai une scène d'engueulade et qu'elle n'est pas capable d'entendre ce que je dis à un moment, je vais l'engueuler parce qu'elle n'entend rien à ce que je lui dis. Encore une fois, elle n'entend rien. Donc c'était un moyen d'intégrer ça. Et je me rappellerai de la fin de la scène qu'on a arrêtée avec des yeux pleins de vie, hyper heureuse d'être traité comme quelqu'un de normal avec sa condition.
Ah oui.
Tous ces petits moments-là, ça a été des déclics majeurs, en fait, qui m'ont dit, OK, il y a vraiment des choses qu'on peut faire et qu'on peut intégrer. C'est encore une fois de ne pas voir le handicap, mais de se dire, tiens, cette personne-là vient avec ce bagage-là. Comment on peut rentrer en communication? Comment on crée cette matière ensemble? C'est comme ça que j'ai vu la création. Et ça a été assez jeune, donc ça a pas conditionné, mais ça m'a mis déjà sur la piste de, bah, si ça se produit, ça se peut. Donc c'est pas ouf. Merde, un handicap.
Ah, ouais, ben c'est ça, parce que souvent c'est associé à ça, hein. C'est comme, puis l'handicap, c'est pas la chose. Moi, j'aime ça dire ça, là, mais tu sais, je trouve que l'handicap, c'est pas la chose la plus sexy. Tu sais, on le voit, tu sais, même juste si on parle, tu sais, sexualité, handicap, tu sais, souvent c'est comme un peu associé à. Non, tu sais, un peu comme si on n'a pas les mêmes besoins.
Exactement.
Il y a vraiment quelque chose d'associé à quasiment de pas de pur, là, mais tu sais, comme si, c'est ça, tu sais, t'as un handicap, fait que là, tu t'es plus supposé à être fâché, être, tu sais, malveillante, ou, tu sais, on dirait que ça fait plus partie d'eux, alors que tu restes un humain. Avant tout, là, tu sais, avant d'avoir la condition. Et moi, je trouve que soit c'est ça un peu qui ressort, que je vois au niveau de l'handicap. Et là, je me demandais, là, avec ta vie, tu sais, tu travailles au café, tu as tes projets, est-ce que le fait de, tu sais, exemple, que demain matin, tu perds la vue, ça va tout changer, ça pourrait changer ta relation par rapport à ton travail, au café,
complètement.
Mais comme acteur, et que là, tout d'un coup, tu pourrais te retrouver dans une situation un peu, OK, là, je suis en perte de repère et je ne sais plus quoi faire de ma vie, là.
Oui, ben, je pense que, comme tu dis, je pense qu'à partir du moment où il y a une perte, il y a un deuil. Donc, comme il y a un deuil, il y a naturellement une phase de, OK, par nécessité, je dois me repositionner.
Oui.
Moi, je suis quelqu'un pour qui la vie sans la création n'a pas beaucoup de sens. Je suis quelqu'un, si je crée pas, je me sens triste, je suis pas bien, j'ai besoin de créer, c'est fondamental. Que ce soit en jouant, même si des fois on va se retrouver à interpréter un texte et puis on va se dire, tiens, le texte est intéressant, mais il manque des choses pour que justement le texte soit un peu sexy, croustillant, que j'ai quelque chose à mettre dedans. Ça va pas être impossible que j'ajoute des contraintes qui sont masquées, d'ajouter. Comme on dit en bon français, à la backstory de mon personnage, lui ajouter un passé dans lequel lui donner une faille ou potentiellement un handicap, visible ou pas visible, ça peut être très intéressant parce que ça me donne aussi quelque chose sur lequel m'appuyer et qui va aussi donner une densité donc, au personnage. Donc ça, j'aime beaucoup, ça rajoute des couches en fait quand on travaille un personnage, et puis je trouve ça très, ça l'humanise davantage. Donc c'est sûr que dans mon métier au quotidien en tant que comédien, bah, c'est sûr qu'on est dans un métier d'image.
Oui,
principalement cinéma, télévision, c'est beaucoup
ça,
d'image.
C'est ça.
Mais c'est sûr que ça. On a un métier aussi qui travaille autour de la voix. Donc je pense que des médiums comme la radio, le doublage serait plus difficile parce qu'on doit voir sur l'écran pour retransmettre.
Oui.
J'en fais également, j'ai la chance d'en.
Faut être en mesure de lire ce qui est écrit pour pouvoir suivre.
Donc ça demanderait soit des adaptations. Est-ce que c'est possible de pré-écouter quelque chose et de reproduire la phrase.
Ouais.
Bon, ça demanderait de l'aménagement.
Ça, c'est sûr.
Je pense que le plus gros défi, plus que gérer avec le handicap en général, je pense que c'est le temps qu'on va y accorder. Je pense que dès qu'on parle de handicap, on pense adaptation. Qui dit adaptation, on pense compromis.
Ah oui.
Et qui dit compromis, systématiquement, les gens ont des « Ah, ok, donc je vais devoir perdre quelque chose. »
C'est ça.
Et je pense qu'on part de ce défaut-là. Si tu me permets, ça me rappelle une anecdote de quelque chose qui m'a montré qu'on peut se repositionner. J'ai un jour travaillé sur un film qu'on avait tourné en France, en Irlande et en Angleterre. Et mon réalisateur était malentendant. Et on tourne toutes nos scènes, il est en salle de montage et il me dit « Bah tiens, tu passes pas très loin, est-ce que ça te tente, plutôt que parler au téléphone, de passer au studio, je suis en train de faire le montage. » Allez, go. Donc je me suis présenté au studio et puis il me dit « Ah, tu veux voir un petit extrait ?» En général, j'aime pas trop ça, trop voir avant. Je dis « Bon, allez, allons-y. » Il me dit « Regarde, je fais un essai avec un essai musical. » Donc il me montre un petit bout, en fait, du film avec la musique. Et là, je le vois triper, il a les yeux qui s'allument, il est super content. Puis j'aime vraiment ce que je vois, mais dans la musique qu'il a mis, il y a quelque chose qui me sort un peu de l'image. Donc,
okay.
On a une super relation de travail. Je lui dis, écoute, c'est chouette, mais pourquoi ce choix musical-là ? Tu sais, la ligne qui est... Je sais plus si c'était les aigus ou les basses, mais il me semble que c'était les basses. Et il dit, je lui dis, mais par contre, la ligne de basse qui est derrière, c'est, ça te sort pas de l'ambiance ? Et puis, il me dit, quelle ligne de basse ? Et là, il m'arrive un truc super intéressant, c'est que je réalise qu'on vit pas le même film, parce qu'en fait, il l'entend pas.
Ben non.
Donc, il entend... C'est-à-dire que le produit final, avec ce qu'il entendait au niveau des vibrations, était présent et ça lui plaisait.
Oui.
Et donc là, j'ai deux choix. Soit je lui dis, écoute, ta musique, ça ne marche pas du tout, il faut faire autre chose. Ou bien je lui dis, consulte un monteur qui va t'aider avec la musique.
Oui.
Mais en même temps, je me suis dit, c'est son film. Il a envie d'en faire quelque chose et quelque part, il a l'air d'aimer ce qu'il entend. Donc je me suis dit, pourquoi moi, c'est pas moi qui fais la démarche de me dire, qu'est-ce que ça donnerait cet extrait-là si on enlevait la ligne de basse que toi tu n'entends pas pour que moi j'entende ce que toi tu fais. Et là je vais me dire, ah c'est ça que tu veux. Ça pourrait être intéressant d'aborder la démarche et que finalement le handicap c'est moi qui l'aide de ne pas entendre ce que mon réalisateur veut.
Oui.
Je me suis dit, tiens, c'est pas inintéressant de le voir comme ça. Je lui ai proposé, il m'a dit, ouais carrément. Donc lui il était à fond parce que j'allais écouter le fruit de son travail, ce qu'il voulait que j'entende. Donc on a renforcé finalement le lien créatif et on est allé là. Donc finalement ça m'a donné une opportunité en changeant mon angle d'approche de création, d'entendre quelque chose d'autre. Et ça fait partie des petits moments qui sont marquants. On se dit, oh, tiens, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, et puis j'ai finalement intégré son travail, donc je suis venu défendre son film, ce qui est le rôle en tant qu'acteur. On vient pour défendre une œuvre. Donc, donc finalement je me suis dit, ah bah voilà, là je fais mon métier d'acteur au final.
Mais tu vois, ce qu'on voit beaucoup, on en parle souvent, comme si la représentation, on en voit très peu. T'sais, déjà, justement, en situation de handicap visuel, qui se retrouve à avoir une place au niveau artistique, c'est pas simple.
Je pense qu'il y a un point qu'on fait, mais je pense que c'est souvent quelque chose qui dit que quand on focus sur le problème, on ne peut pas trouver la solution.
Ouais.
Et je pense qu'on fait ça. Je pense que souvent, quand on aborde le handicap, comme beaucoup de différences, hein, que ce soit quand on parle de diversité, je trouve que beaucoup de sujets de société, on les aborde souvent par l'angle du problème.
Oui.
Et on se dit, ouf, comment on fait pour s'adapter ?
Ouais.
Et je pense que c'est une manière, encore une fois, de voir, c'est toujours l'angle avec lequel on aborde les choses. Je pense que souvent, on se dit, comment est-ce qu'on intègre un aveugle dans cette histoire ? Comment est-ce qu'on intègre quelqu'un qui ne voit pas bien ?
Ouais.
Et on essaie de faire de son problème une trame narrative. Alors que je pense que c'est faut simplement écrire l'histoire comme si il n'y avait pas ce handicap-là, par exemple, et ensuite se dire, si ce personnage-là avait ça, comment est-ce que ça pourrait influencer l'histoire de manière positive ? Comment ça pourrait rajouter quelque chose plutôt que se dire, aïe, on doit s'adapter. Forcément, on va devoir s'adapter, les lieux ne vont pas être les mêmes. C'est sûr qu'on écrit un film sur la natation, bon, d'un coup, ça devient complexe, ou un tireur d'élite qui est aveugle. On va avoir besoin de beaucoup de ressorts créatifs pour en faire quelque chose d'intéressant.
Tireur d'élite qui est aveugle. Donc, ça serait particulier, hein, parce que c'est ça, ça prendrait une adaptation pour savoir où tu vises là. Et,
On aurait plus la comédie, le drame plus facilement.
Oui, c'est ça.
Et pareil, je pense que c'est aussi le rapport au handicap, c'est également l'autodérision, moi, qui m'a marqué sur toutes les personnes qui ont des handicaps que j'ai côtoyés ou que je côtoie. Oui. Je remarque une énergie de vie dont on peut prendre
s'inspirer
note.
C'est
fascinant. J'ai connu quelqu'un qui était tétraplégique, et puis quelqu'un qui se présente à côté de lui qui dit, oh, j'ai vraiment eu une journée pourrie aujourd'hui, Et lui qui le regarde et qui lui dit « Oh, ça pourrait être pire. » C'est des détails comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Julie.
Oui.
Je pense que ton ami nous a dit que vous alliez vous installer là parce que tu te dirigeais vers le comptoir.
Oui.
Et moi, j'avais dit comme ça « Bon, elle peut compter sur vous pour vous guider. » Et puis, on avait fait une blague. Et puis, je pense qu'à la blague, ça avait donné quelque chose de très léger sur lequel tu avais rebondi très vite.
Ah oui.
Et c'est pour ça que j'ai été à l'aise parce que j'étais familier avec ce genre de réaction-là.
Et c'est ça, c'est cet humour-là.
Oui, bien sûr.
Ben oui, absolument. Moi, ça fait partie. Je peux pas me retrouver dans une situation où est-ce que je vais pas moi-même rire de ce qui se passe. Ouais, je suis beaucoup dans l'autodérision et j'aime ça quand je vois qu'il y a des gens qui ont pas d'handicap visuel puis qui me suivent là-dedans.
Bien sûr.
Parce que tu sais, des fois, il pourrait avoir un malaise, tu sais, de l'autre côté.
Complètement.
Comme moi, c'est pas mon cas. Moi, je sais pas, mais je sais que les gens autour de moi qui me côtoient, ben naturellement, ils savent qu'ils peuvent faire cet humour-là avec moi. Donc, on dirait que ça dédramatise tout. Et après ça, ben on le sait, Julie a un handicap visuel, mais ça va pas être ça qui va meubler, finalement, tout mon quotidien et tout leur quotidien.
Ouais, ça va pas te définir au complet. C'est pas une qualité ou un défaut ou un handicap.
Ça fait partie de...
Complètement, oui.
Mais c'est ça. Mais moi, je l'ai vu avec... parce que j'ai fait un projet 6 degrés. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est.
Non, je t'écoute.
Bon, alors, 6 degrés, c'est une série qui a été écrite par Simon Boulris.
OK.
Et c'était en lien avec l'handicap visuel. Donc, le comédien qui n'avait pas d'handicap visuel. En fait, quand la série est sortie la première fois, moi, j'étais outrée. À ce moment-là, là, parce que moi, tout de suite, j'ai dit, oh oui, il est bon, le comédien. Mais moi, je sais que c'est pas un vrai... T'sais, je sais qu'il n'y a pas d'handicap visuel. Mmh. Fait que là, déjà, je me dis, ben là, viens pas me dire que tu ne pouvais pas trouver un comédien qui avait un handicap visuel. Puis moi, j'ai eu une discussion avec Simon Boulris, vraiment à cœur ouvert. T'sais, on avait été prendre un café, puis il m'avait vraiment dit Julie, c'est ça que je voulais au début. Mais il dit, à cause des défis que ça fait avoir quelqu'un qui a un handicap visuel. Donc, tout au niveau de... Ben là, tout d'un coup, les fils, faut que la personne aille aux toilettes, on doit l'amener aux toilettes, changement de costume, ça prend quelqu'un, lire les textes, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On les met en braille. Tu sais, tout ça, là.
Ouais.
Il me disait, Julie, on n'avait pas les sous.
Exact. On revient au souci d'efficacité et de productivité.
On revient, exactement.
Ouais.
Et là, c'est là qu'il a dit, on a dû prendre un comédien qui avait ses yeux, qui voyait très bien. Ce qui fait qu'entre les prises, il se déplaçait, il était autonome et tout ça. Mais il y avait eu comme un entraînement par rapport à se déplacer, la canne blanche et tout ça. Et finalement, Simon Boulris m'avait dit, mais par contre, il dit là, j'aimerais ça faire un personnage qui est une psychologue, qui a un handicap visuel, qui vient soutenir ce jeune-là. Il dit, est-ce que t'aimerais ça, faire ce rôle-là?
Ouais.
Et là, il a écrit un personnage pour moi à ce moment-là.
Okay.
Et c'était vraiment inspiré de mon vécu, là.
Ouais.
C'était vraiment... Il avait pris ma condition médicale, puis dans le texte, c'est vraiment ça que je disais. Mais ça, c'était comme une première, là, tu sais, qu'on voyait, tu sais, vraiment, puis il mettait vraiment l'emphase sur la psychologue. Donc, j'ai un métier, j'ai comme le titre officiel, mais par contre, ben c'est moi qui peux être en soutien à la personne qui est en face de moi. Fait que ça, j'avais beaucoup aimé ça, de voir qu'il y avait eu cette ouverture-là. Mais c'était comme vraiment un petit personnage. Ça n'aurait pas pu être toutes les trois séries qui s'appuyaient là-dessus à ce niveau-là.
D'accord.
Puis je me demandais, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu dis des fois... peut-être que je pourrais essayer d'intégrer un peu plus dans mon projet avec... là, tout d'un coup, je me dis, tiens, hey, là, j'ai envie d'essayer de rentrer quelqu'un qui a un handicap visuel là-dedans. C'est-tu des fois quelque chose que tu penses?
Complètement, en fait. En fait, c'est pas... Moi, je fonctionne pas avec le handicap. Il y a de l'handicap ou il n'y a pas d'handicap. En fait, je vais d'abord partir, parce que j'écris aussi.
Oui.
Je vais d'abord partir de... J'ai une histoire que j'ai envie de défendre.
OK.
Comment cette histoire-là, je la défends le mieux possible?
Oui.
Évidemment, si avoir un personnage handicapé peut renforcer ce que j'essaie de défendre comme sujet, avec plaisir.
Ah,
je
ne
vais
pas
penser d'abord au problème. Après, c'est une manière, je trouve, d'aborder en fait d'aborder le travail. J'ai eu la chance, une fois, de me faire proposer ça. J'étais invité à une université d'été franco-américaine à Rochefort, en France, donc pas très loin de La Rochelle. Et c'était une rencontre entre des réalisateurs et scénaristes américains et des réalisateurs et scénaristes français. Et ils nous mettaient dans des mises en situation avec des scènes qui nous étaient imposées. Et j'ai eu une scène sur laquelle on m'a demandé de jouer une personne qui avait un handicap visuel. C'était vraiment intéressant parce qu'on essaie d'aborder ça le plus humblement possible.
Oui.
Et j'essayais de me dire, mais comment je peux faire? Parce que je vois.
Oui.
Et en fait, j'ai compris un truc ce jour-là, c'est que je me suis dit, plutôt que d'essayer de chercher à ne pas voir, c'est ce que m'a demandé le réalisateur, il m'a dit, mais ça marche super bien, mais comment t'as fait ça? Et en fait, je lui ai dit, je suis voyant.
Oui.
Soit je travaille contre moi, en essayant de me dire, bon, je vois, mais je vais faire comme si je
comme
ne voyais
si.
Pas.
Oui.
Ce qui n'est pas un moteur qui est productif. Je me suis dit, il faut que je me dise que je vois, mais différemment. Et donc, je me suis dit, je ne vois pas. Je peux voir avec mes yeux, mais je vois avec mon oreille. Et en fait, j'ai imaginé que mes yeux étaient positionnés à la place de mon oreille.
À la place des
oreilles. Dès que quelqu'un me parlait, c'était mon oreille qui allait répondre à la personne. Donc, ça me donnait un regard qui devenait de fait absent. Parce qu'on dit souvent, l'esprit n'entend pas la négation.
Oui.
Donc, si pendant qu'on parle, je me dis, oh, faut pas que je pense à ne pas voir, ça va être compliqué. Donc, en fait, j'ai trouvé un moteur positif qui était, OK, si je veux être capable de mieux voir ça, il faut que je mette mon focus davantage sur le fait que je ne vois pas, mais j'entends très bien. Donc, je veux vraiment avoir une écoute très sensible de ce qu'il me dit pour être sûr de pouvoir répondre de la même manière. Et donc, dès qu'il y avait un déplacement de l'autre personne dans la scène, c'était mon oreille qui le suivait parce que j'écoutais ses pas. Donc, ça différait.
Ça différait
mon sens, en fait. Donc, ça c'était vraiment une expérience, encore une fois, qui a apporté quelque chose. Et je me suis dit, ça, c'est intéressant. Parce qu'encore une fois, même quand on travaille des personnages, on dit, il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas d'adjectif négatif quand on joue. C'est quelque chose que j'enseigne aussi quand je coach des acteurs. Je dis, le meilleur moyen de jouer quelqu'un dessous, on ne joue pas quelqu'un dessous. Parce que quelqu'un dessous, il ne joue pas à être sous.
Non.
Il joue à vouloir marcher droit.
Oui, c'est ça.
Toutes ces choses-là.
Rémi, mon Dieu, ça a tellement été intéressant. Rémi, je trouve que ça a été une belle rencontre. Tu t'es prêté au jeu. Puis c'est ça, finalement, tu as même une façon de voir ça que je trouve qui est super inspirante. Puis j'espère qu'il y a plusieurs gens de la communauté aussi artistique qui ont dit, c'est possible d'intégrer des personnes en situation de handicap visuel, mais faire ça différemment. Alors, merci Rémi. Donc, Rémi Deloum.
Oui, c'est bien ça.
On peut te retrouver là, sur les réseaux. On écrit Rémi Deloum.
Complètement sur Instagram. Prochainement, je pense la semaine prochaine ou d'ici deux semaines sur la série Indéfendable également que j'ai rejoint. Donc, des beaux cadeaux de la vie.
Génial! Merci! Et au retour, je vais m'entretenir avec Sylvie Castonguay de la DMLA.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et là maintenant, j'accueille Sylvie Castonguay, qui est directrice générale de l'Association québécoise de la DMLA, la dégénérescence maculaire. Et là, on va pouvoir jaser premièrement de l'association, qu'est-ce que c'est. Et on est au mois de février, donc c'était le bon moment aussi pour parler de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, vu que c'est le mois de la sensibilisation spécifique à la DMLA. J'ai la DMLA, vous avez la DMLA. Donc, on est deux.
On est sur le même terrain.
On est sur le même terrain. On n'a pas la même DMLA et tout ça, les mêmes défis, mais on connaît quand même bien les deux ça. Donc, ça va être une discussion où est-ce qu'on va pouvoir parler aussi de notre parcours à travers tout ça. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire?
C'est une association qui a été fondée il y a quand même 35 ans, en 1990. Et elle a été fondée, elle est toujours comme mission de regrouper les gens qui sont atteints de dégénérescence maculaire.
OK.
Toutes les formes de dégénérescence maculaire.
Oui.
On parlera plus particulièrement de celle qui est liée à l'âge.
Oui.
Des proches aidants, parce que parfois, avec le temps, on peut avoir besoin d'aide, de soutien. Et on a ouvert une catégorie pour les gens qui nous soutiennent, mais qui ne sont pas reliés directement à la maladie, mais qui sont intéressés à l'évolution des traitements, l'évolution des soins. Et aussi parce que, comme c'est une maladie qui est souvent héréditaire, on veut que ce message-là de comprendre la maladie, la prévention sur la maladie, se répande le plus largement possible. Donc, notre regroupement avec les années a pris plus d'expansion également au niveau des types de membership.
Mm-hmm. Ça fait combien de temps que vous êtes directrice générale?
Ça va faire 3 ans dans okay. moins d'un mois okay. depuis le 7 mars 2022.
Oui. Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de vous impliquer de cette façon-là?
Bien, pour commencer, j'ai eu un diagnostic de dégénérescence maculaire liée à l'âge en 2021.
Oui.
Et moi, ben, j'ai été longtemps dans des conseils d'administration, d'organisations puis non lucratifs, des présidences de conseils. Mm-hmm. Puis j'ai travaillé dans le secteur de la santé aussi pendant un certain temps.
Oui.
Donc, quand j'ai eu mon diagnostic... Mon ophtalmologiste m'a dit ça, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire.
Mm.
Évidemment, l'ophtalmologiste n'a pas le temps d'expliquer à tous ses patients exactement de quoi il s'agit.
Oui.
Donc, j'ai été curieuse, je suis allée sur Internet, j'ai tapé dégénérescence maculaire, Québec, puis je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui oui. existe ici? Alors, je suis arrivée rapidement sur cette association. Je suis devenue membre, j'ai parlé au directeur à l'époque, je suis devenue bénévole.
OK.
À Montréal, parce que je demeure dans la région de Montréal.
Mm-hmm.
Et le directeur général, lui, était sur le point de... Il cherchait quelqu'un pour le remplacer.
Oui.
Parce qu'il avait 74 ans, il voulait prendre sa retraite, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, ben moi, j'avais de l'expérience en gestion. J'ai été gestionnaire de communication, développement d'affaires dans différents secteurs d'activité. Mais j'étais comme pas mal semi-retraitée.
OK.
Donc, on m'a offert le poste. Puis je me suis dit, ben bon, je pourrais reprendre mes patins là, pour un certain temps
oh, okay.
pour aider la cause, mais aussi parce que j'ai de l'expérience.
Donc, ça veut dire que vous êtes arrivé finalement à la direction générale, mais ça faisait pas très longtemps que vous-même, vous aviez la DMLA.
Non, tout à fait.
Oh, c'est ça.
Tout à fait. J'étais plongée...
Ben, complètement.
Complètement, là-dedans. Oui. Oui.
Et à ce moment-là, quand vous avez su en 2021 que vous aviez la DMLA, est-ce que vous étiez déjà sujette à d'autres problématiques visuelles ou c'est vraiment un peu comme... Beaucoup de personnes, justement, qui ont cette forme-là de maladie plus héréditaire, là, que ça arrive tout d'un coup, tu te dis, ben voyons donc, j'ai vu bien toute ma vie et là, tout d'un coup, j'ai une maladie. C'est quoi pour vous?
Ben moi, j'avais des maladies. En fait, j'avais des problématiques aux yeux, comme beaucoup de gens, là, la myopie, l'astigmatisme, okay. la presbytie avec le temps.
Ouais.
Ça faisait 2 ans que mon optométriste me disait « Il y a un petit point jaune dans, dans le fond de votre vision, mais c'est à surveiller. »
OK.
Mais l'optométriste n'expliquait pas davantage.
OK.
Et à un moment donné, l'optométriste, j'y allais tous les ans pour mes lunettes, puis voir si ma vue évoluait. Ouais. Jusqu'au jour où il me dit « Bien là, ça vaudrait la peine que je vous envoie voir l'ophtalmologiste. »
OK.
Parce que le diagnostic est fait par l'ophtalmologiste qui est le médecin, alors que l'optométriste est un professionnel de la vision.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas lui qui diagnostique la maladie.
Non.
Donc, j'ai été très surprise quand j'ai eu ce diagnostic parce que dégénérescence maculaire, il m'a dit « Bien là, vous reviendrez l'an prochain, prenez votre grille d'Amsler qui est... sa secrétaire m'a donné, qui est une quadrillée où on regarde l'évolution de la maladie, là, qui est disponible sur notre site web, puis qui est aussi bon en prévention.
Mm-hmm. Qui est dans le fond qu'on fixe le point milieu.
Exactement.
Et tout autour, c'est un quadrillée. Et en fonction de, on regarde le petit point, et là, tout d'un coup, est-ce que j'ai un espace là, que je ne vois plus les
Exactement.
Lignes ou que ça devient croche,
Exactement.
Mais en fixant le point du centre.
C'est ça, avec un œil à la fois, mais sur le document, quand on l'imprime ou sur le site, ça explique. Donc, mais encore là, je suis partie avec mon petit quadrillier, puis tout ce que la secrétaire me dit, si ça gondole beaucoup, vous reviendrez nous voir.
Oui.
Bon. Correct, mais...
Ben oui.
Mais ça m'a amené des questions parce que je me suis dit « dégénérescence
».
Donc, c'est dégénératif.
Ça dégénère, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire dans le temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dégénérescence?
Mm-hmm.
Puis que ça va gondoler, il faudrait que je revienne voir l'ophtalmologiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est là que je me suis creusée un petit peu la tête. Et comme dans beaucoup de cas... Moi, j'ai dit à ma mère, j'ai un diagnostic de dégénérescence maculaire. Alors, ma mère me dit, ben oui, Sylvie, ton père avait la dégénérescence maculaire. J'ai dit, mais comment ça se fait que on ne le savait pas?
Oui.
Ben, en tout cas, tu sais, en fait, parce que tant que ça ne devient pas une maladie qui obstrue vraiment beaucoup la vision, mm-hmm. c'est une maladie, peut-être qu'on en parlera plus, là, qu'est-ce qui est symptomatique dans la DMLA, les gens continuent à vivre, puis il y a beaucoup de gens qui vivent sans trop s'en rendre compte.
Mm-hmm.
Alors, tu sais, mon père avait beaucoup de maladies graves, le cancer, problème mm-hmm. de cœur, donc la dégénérescence maculaire, c'était un diagnostic de plus. Mais à court terme, ce n'était pas le plus grave.
C'est ça, c'est pas ça qui handicapait finalement sa vie.
Et je pense pas, comme ça a été mon cas, que le médecin avait expliqué, vous savez, ça peut être héréditaire, parlez-en à vos enfants.
Mais non.
Alors on retourne chez nous, puis tu sais, la vie continue. Mm-hmm. Je suis encore capable de lire, j'ai encore mon permis de conduire, je reconnais les gens, donc... Si j'ai d'autres maladies plus graves, ben ça, c'est comme d'autres problématiques de santé.
Oui, oui, oui.
C'est un peu comme ça que je l'ai perçu quand ça a commencé.
OK. Puis vous, est-ce que c'est... parce que là, justement, quand vous avez commencé à regarder, est-ce que ça s'est mis à gondoler? Est-ce que c'était comme plus une tâche qui s'est devenue plus brouillée?
Oui. Ou... non, parce qu'au début de la maladie, c'est une maladie, la DMLA a deux formes, la forme sèche, qui est celle que j'ai.
OK, vous avez la sèche.
Qui se développe dans le temps beaucoup plus lentement.
Oui.
Donc, au début, il faut avoir un examen spécialisé, ce qu'on appelle l'examen du fond de l'œil chez l'optométriste ou chez l'ophtalmologiste.
Oui.
C'est là qu'on détecte les dépôts qui sont sous la macula, le centre de l'œil, qui se développent. Mais au début, c'est tout petit, donc c'est imperceptible au début.
Mm-hmm.
Ça ne fait pas mal, puis l'œil va toujours rester avec le, tu sais, comme il est. Donc, on ne le perçoit pas. Donc, au début, on ne le voit pas. Donc, dans mon cas, ça a bien pris 2 ans avant que je commence à comprendre un peu ce que ça voulait dire dans mon œil gauche, parce que ça a commencé dans l'œil gauche.
Okay.
Mon œil droit était sain.
Oui.
Mais là-dessus, j'ai eu une cataracte.
Ah.
Et là, avec la cataracte, là, je ne distinguais plus qu'est-ce qui était causé, quelle perte de vision était causée par la cataracte et la dégénérescence maculaire.
OK.
Donc, j'ai été opérée il y a quelques mois pour la cataracte.
Mm-hmm.
Et maintenant, je vois très bien.
Mm.
Pourquoi? Parce que mon œil gauche, même s'il est... Lui, je vois moins bien, j'ai des taches dans le centre de l'œil.
Oui.
Quand je lis, je vois, il y a des trous dans ma vision.
Oui.
Mon œil droit
compense.
Mon œil droit a été diagnostiqué l'an dernier, mais il compense parce que la progression commence. Donc, je vis le même parcours dans mon œil droit.
Oui.
Donc, le cerveau détecte la vision de mon meilleur œil. Donc, pour l'instant, je vois bien grâce à mon œil droit. C'est ce qui fait que c'est une maladie que nous, on appelle asymétrique.
Oui.
Parce que si quelqu'un a ça dans un œil, puis que c'est possible que ça ne touche pas le deuxième œil, ce qui est moins fréquent.
Oui, oui.
Bien, si on est capable de compenser avec des lunettes ou une bonne vision, on va quand même continuer à bien voir.
Oui.
Quand ça touche les deux yeux, avec la forme sèche, ça peut prendre plusieurs années ou moins, ça dépend des gens.
Oui.
À terme, on peut perdre sa vision centrale, donc la capacité à lire, conduire une auto, reconnaître les visages, c'est cuisiner finement.
Oui, tout ce qu'on fait finalement avec notre vision du centre.
Du centre,
parce que là, en fait, on a la vision périphérique qui reste, donc on voit sur les côtés, mais on voit plus tout ce qu'on fait quand on regarde, quand on fixe à quelque part finalement. Puis c'est ça finalement la macula.
Exactement.
Il y a la forme humide qui est beaucoup plus agressive et elle nécessite des injections au niveau des yeux. Moi, j'ai eu la
forme humide.
La humide au début, ce qui fait que moi, j'ai eu les injections là, aux 4 semaines. Au début, c'était un œil, après ça, c'était les deux, après ça, c'était juste un. En tout cas, tu sais, ça a comme. Mais, parce qu'il y en a un que ça a viré en sèche. Donc, il y en a un qui était humide et là, tout d'un coup, était sèche, mais après comme à peu près 6 ans d'injection aux 4 semaines.
Donc, vous avez vécu le parcours.
Oui, moi, j'ai vécu le parcours à l'âge de 30 ans, là, tu sais, que ça a commencé.
C'est très jeune.
Très, très jeune. Et aussi, c'est le fait qu'à ce moment-là, bien, on le sait, tu as l'injection, mais être à recommencer constamment parce que l'hémorragie revient tout le temps. Fait que c'est vraiment comme une hémorragie au niveau de la macula. Et l'injection, c'est pas quelque chose qui va guérir. T'sais, c'est un traitement pour empêcher la dégénérescence plus rapide.
Exactement.
C'est ça.
Et ça, la forme humide, on est toujours, évidemment, ça dépend des cas, mais il faut toujours le surveiller. Quand on a la forme sèche, une des raisons pour lesquelles on regarde cette fameuse grille d'Amsler ou que si on regarde les cartes de porte, si on regarde un fichier Excel avec des lignes, on regarde avec un œil à la fois, avec ses lunettes, si on en a. Puis quand on voit là, que ça gondole beaucoup, s'il y a des taches dans sa vision, ça veut dire que c'est possible que ce soit la forme humide.
Oui.
Dans ce cas-là, c'est une urgence.
Nous, on appelle ça une urgence.
Il faut aller soit à l'urgence ou dans la semaine, il faut aller chez l'optométriste ou l'ophtalmologiste. Pourquoi? Oui. Parce que ce liquide dont vous parliez, qui s'accumule dans le fond de l'œil, c'est des petits vaisseaux sanguins qui poussent dans l'œil. Il y a un liquide qui coule et l'injection permet d'assécher le liquide et de retrouver sa vision jusqu'à la prochaine injection.
Eh oui.
À moins que ça devienne stable, ce qui est pas fréquent.
Non, c'est ça. Mais... Parce que c'est dégénératif. Exact. Donc, c'est plutôt rare.
Mais tout de même, ça fait 15 ans au Québec qu'on a des injections maintenant pour traiter la forme humide. Mm-hmm. Avant, il n'y en avait pas. Donc, les gens étaient condamnés à perdre leur vision centrale très rapidement. Ils voyaient comme un grand point noir dans le centre
dans
de l'oreille. Les médicaments progressent et les intervalles entre les injections deviennent de plus en plus grands pour beaucoup de patients. Évidemment, ça dépend toujours. Est-ce que les patients sont... C'est pas tous les patients qui réagissent de la même façon. Mais on voit tout de même arriver un intervalle plus grand, donc.
Oui, ça peut être aux 4 semaines. Après ça, ça peut être rendu aux 6. Ça pourrait être rendu aux 8, 10 semaines.
Et... Donc, c'est quand même de bonnes nouvelles.
Oui, absolument. Et là, en fait, la dégénérescence maculaire, on dit liée à l'âge. Alors moi, je l'ai eu, j'avais 30 ans. Bon, moi, je sais, c'est pas... j'ai une DMLA, tu sais, dans le sens que c'est le diagnostic officiel, mais j'avais pas une vraie DMLA parce que moi, c'est pas héréditaire. Moi, c'est vraiment relié à ma myopie, une malformation congénitale. Donc, mes nerfs optiques sont atrophiés. Je suis née, j'avais une myopie de moins 14. Et en vieillissant, mes yeux vieillissent prématurément. Donc, moi, je suis dans une condition où est-ce que quand on me regarde, on dit « Ah oui, t'as 30 ans. » À ce moment-là, quand j'ai commencé, j'ai 30 ans, mais on regarde à l'intérieur de mon œil puis on dit « t'as un œil de quelqu'un qui a 80, là. » Donc, ça fait que tout d'un coup, t'as la fragilité de l'œil de la personne âgée. Parce qu'un œil, on le sait, c'est pas quelque chose qui est... On dirait qu'en vieillissant, l'œil, c'est pas un organe qui a une espérance de vie de 200 ans. Là. Il se fragilise tranquillement. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes. Je ne sais pas au niveau des statistiques, là, parce qu'ils disent que on s'enligne là, pour avoir une progression immense là, au niveau de la DMLA, parce que la population est vieillissante. Oui. Mais c'est ça, c'est souvent des gens qui n'ont pas eu rien avant ça. Et là, tout d'un coup, c'est juste comme l'œil qui vieillit.
C'est l'œil qui vieillit. Mais il y a des gens qui vont très bien voir jusqu'à la fin de leur jour aussi. Donc, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient nécessairement en perte visuelle.
Oui, mais c'est typiquement lié à l'âge. T'sais, de là, pourquoi elle a ce nom-là? Comme exemple, le glaucome, c'est pas le glaucome lié à l'âge. T'sais, la DMLA, c'est vraiment la seule qui est vraiment liée à l'âge.
Vous mentionniez qu'on s'attend à une
progression.
Même maintenant, on dit qu'au Canada, il y a 2,5 millions de personnes qui sont atteintes de DMLA.
Oui.
Au Québec, on parle de 500 000 personnes.
Oh, c'est ça.
500 000 personnes.
C'est énorme.
Énorme, mais beaucoup de gens ne le savent pas.
Non.
Parce que c'est sous-diagnostiqué. Parce que si on ne va pas voir l'optométriste puis qu'on ne demande pas nécessairement un examen spécialisé dans les premiers temps, là, qu'on a la maladie au début, on ne le verra pas.
Non.
L'avantage d'avoir un test, plutôt, nous, on invite les gens après 50 ans, 55 ans, à avoir des examens, à demander l'examen du fond de l'œil chez l'optométriste. ça peut coûter 35-50 $ là. Mais c'est plus précis que l'examen de la vue qui est payé là, par la RAMQ.
Exact.
Et on peut avoir un comportement de prévention. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas la maladie nécessairement, mm-hmm. mais on peut retarder la progression de cette maladie par de bonnes habitudes de vie.
Oui.
Par exemple, la surexposition au soleil. Moi, je porte des,
lunettes.
Moi, je porte des grosses lunettes, là, ouais. des surlunettes qui portent un chapeau.
Qui ont comme un... Il y a quelque chose où est-ce que ça enveloppe pratiquement la lunette. Là. Donc, il n'y a pas de rayons de soleil qui peuvent arriver au-dessus de l'œil. Là.
Donc ça, c'est important, ne pas fumer, manger, bien manger, particulièrement des légumes verts, feuillus. Et quand on est rendu en ce qu'on appelle, il y a trois stades à la maladie, le début, l'intermédiaire et l'avancée, qui est ce qu'on appelle l'atrophie géographique, qui est vraiment une perte visuelle, là, où à ce moment-là, on perd sa vision centrale.
Oui.
Donc à partir du moment où on a un diagnostic, la plupart du temps, l'ophtalmologiste va dire, ben, prenez ce qu'on appelle des vitamines AREDS2, AREDS2.
Mm-hmm.
C'est un cocktail de suppléments avec du zinc, la lutéine,
qu'on
trouve en
A.
pharmacie, là, effectivement, qui nourrit l'œil.
Oui.
Et on prend deux comprimés, deux tablettes par jour.
Mm-hmm.
Et sur une étude sur 10 ans maintenant, une étude qui a été faite en Australie, on peut dire que même dans un stade plus avancé, donc c'est bien de maintenir la prise de suppléments.
Oui.
Ça peut aider à ralentir. Difficile de vraiment, tu sais, cerner dans tel cas, est-ce que ça a gardé ma vision meilleure pendant 2 ans, 5 ans?
Oui.
Mais en moyenne, on peut dire que ça vaut la peine.
Oui, puis c'est parce qu'en fait, c'est qu'après ça, la personne qui a la DMLA, c'est une chose, mais là, la personne qui a la DMLA, de la myopie, du glaucome, qui a autre, tu sais, cataracte, tu sais, qui a d'autres, des décollements de rétine à répétition. Moi, j'ai eu ça aussi, là, tu sais, des décollements de rétine, fait que injection, décollement de rétine. Fait qu'à un moment donné, ça, c'est toutes des conditions qui sont différentes qu'une personne qui a, OK, ben, t'as la DMLA et là, tout d'un coup, tu prends les vitamines, le complexe et tout ça. Donc, oui, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui, qu'on prend puis que ça va pas faire aucun effet positif, mais de s'attendre à ce que ça guérit, ça non, par contre. Il y a rien encore qui guérit complètement la DMLA, je pense.
Bien, c'est-à-dire qu'on a des avancées médicales et scientifiques.
OK.
Récente. La semaine dernière, on avait un webinaire, une conférence virtuelle avec un ophtalmologiste spécialisé en traitement de la rétine, Dr. Marc-André Réaume.
Oui.
Qui est disponible sur notre site web.
Il
est à l'Université de Montréal.
Hôpital?
Il est à Auchum.
Auchum, OK.
Et il y a maintenant des premiers traitements au niveau américain et en Europe pour traiter la dégénérescence maculaire sèche.
Ah, la sèche.
Oui, la humide, on en a depuis 15 ans. Ça, ça s'est amélioré, comme je vous disais.
Dans le sens que les injections ne guérissent pas,
ça. Ouais. Mais la sèche, qui, elle, est progressive,
on
commence à voir des traitements
C'est-tu des injections?
C'est pas des injections, c'est des traitements sur la paupière, là, c'est des...
Donc, les yeux fermés, les paupières fermées?
Oui, c'est ça. Ben, les yeux fermés, là, je pourrais pas vous dire trop les détails, mais ce que c'est que ça permet d'améliorer l'acuité visuelle ou de stabiliser, mais c'est récent. Donc, on n'a pas... On peut pas
c'est
dire
pas
sur
approuvé,
5 ans, 10 ans.
Là.
Oui, c'est approuvé.
Approuvé, OK.
En fait, il y a Lumitera qui est approuvé aux États-Unis. Lumitera, c'est l'entreprise. Et en Europe, on peut présumer que ça va venir au Canada. Du moins, nous, on s'intéresse beaucoup à ça. Là.
Mm.
Au Canada, il y a une compagnie qui s'appelle Macumira, qui a aussi un traitement qui est tout à fait récent. Et comme c'est très récent, les sociétés d'ophtalmologistes au Canada invitent les ophtalmologistes et les patients à être prudents, parce que de voir un peu l'évolution sur 2 ans, 3 ans, la quantité de patients.
Oui.
Pourquoi? Parce que... On regarde l'efficacité, mais on regarde la sécurité sur un produit.
Mm-hmm.
Donc, si on a peu d'années d'expérience avec un traitement quel qu'il soit, bien, c'est évident qu'on peut faire attention. Par contre, il est disponible.
OK.
Donc, mais il y a toutes sortes de c'est pas pour tout le monde, etc. Puis, oui. La plupart des ophtalmologistes actuellement sont sur le... regardent les choses, suivent les choses. Je sais que Dr. Réon nous disait que lui, il voulait faire des cas avec des patients.
OK.
Justement
pour évaluer. Qui ont la VMLA pour tester.
Pour voir qu'est-ce que ça peut donner.
Oui.
Mais... et il y a des nouveaux traitements qui s'en viennent, là, qui sont en étude, mais qui sont peut-être dans 5 ans, 10 ans, là, la thérapie génique, des gouttes.
Ouais.
Donc, des choses qui ne sont pas invasives, comme des injections là, qui pourraient venir. Donc, des implants dans les yeux.
Intense.
Écoutez, il y a une effervescence de possibilités. Mais dans le domaine de la science, on voit venir. Il y a des choses qui vont fonctionner. Il y en a beaucoup qui peut-être ne se rendront pas à la disponibilité d'un produit ou sur le marché.
Mm-hmm.
Mais ça s'accélère, ça va plus vite.
Okay.
Ce qui fait que, si je regarde ça, moi, qui suis quand même... J'ai ça relativement jeune, moins jeune que vous, mais j'ai eu ça à 63 ans au lieu de 75.
63, c'est jeune dans le monde de la DMLA.
Oui, parce que normalement, c'est 75 ans et plus. Oui. C'est la première cause de cécité chez les gens de 50 ans et plus. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas anodin.
Ils disent cécité fonctionnelle.
Exact.
Parce que, justement, on perd pas la vision périphérique.
Exact.
C'est ça. C'est pour ça qu'ils disent ça. Mais moi, j'ai le glaucome. Fait que moi, j'ai
avec le glaucome, on a les deux.
On a
en
les
temps.
Deux, c'est ça. Mais si c'est uniquement la DMLA, ben ils disent que oui, c'est une cécité fonctionnelle. Donc, dans le quotidien, il y a un handicap majeur parce que là, si on fait juste penser, tu sais, moi, j'invite les auditeurs là, à juste s'imaginer tout ce qu'on fait quand on regarde quelque chose. Donc, tout ça, là. C'est
le
tout
centre,
ça, là.
C'est ça.
C'est le centre. Oui. Puis, tu sais, le centre, c'est pas un petit point, là. Tu sais, le centre, ça peut être un bon rayon quand même, là. Tu sais, on peut des fois avoir un 10 cm de rayon. Tu sais, c'est quand même gros, là. Ce qui veut dire que là, tu essaies de voir devant toi, puis tu as tout le temps une espèce de grosse tache qui t'empêche de faire tes tâches.
Oui,
ben, en fait,
c'est
tu
ça.
Peux les faire, mais en tout cas, c'est un défi. C'est un défi. Tu veux couper du cocombe, c'est un défi tout d'un coup. Là.
Mais ce qu'on apprend, puis moi, j'ai beaucoup appris parce que, comme directrice à l'association, je côtoie toutes sortes de gens d'associations, l'INCA, les associations de personnes handicapées visuelles, et des gens de centres de réadaptation.
Oui.
J'ai quand même appris que s'adapter, c'est possible.
Mais oui.
Que si on en arrive à un point où on perd sa vision centrale, la vie n'est pas terminée.
Non.
On peut bien vivre.
Oui.
Et des organisations comme la nôtre, des émissions comme celles que vous faites, permettent aux gens de se projeter vers l'avant avec un avenir où il y a un espoir.
Il y a un espoir. En fait, c'est important. On doit tout le temps amener ça aussi, tu sais, de dire il y a de l'espoir, parce que sinon, rendu là, quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, là,
oui.
Tu sais. Fait que c'est ça qui est beau. Comment vous pouvez soutenir, tu sais, exemple, moi, là, je veux, tu sais, être avec l'Association québécoise, mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? C'est parce que vous, comme il était question d'un webinaire, mais c'est plus comme un carrefour de ressources, il y a des groupes d'entraide. Qu'est-ce qu'il y a exactement?
Nous, on a quatre axes, si vous voulez. Le premier, c'est la sensibilisation à l'information. Donc, on donne des conférences sur la maladie, des conférences autant. Des fois, on en donne dans des résidences de personnes âgées, on en donne dans des centres communautaires, on en a des virtuels que tout le monde peut aller écouter sur notre chaîne YouTube.
Oui.
On a une ligne téléphonique où les gens peuvent appeler. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout chez les aînés, il y en a qui n'ont pas accès à l'Internet. Donc, donc le téléphone est là aussi. On donne de l'information. On est en concertation avec d'autres organismes, dont les associations comme l'INCA, les transports adaptés et tout, parce qu'on oriente vers des ressources.
Oui.
Nous, on n'offre pas de service comme
tel. Non, c'est ça. C'est vraiment plus comme un carrefour où est-ce qu'on va avoir l'information.
D'orientation. Oui. On a certains groupes de soutien sur certains territoires au Québec. Si des bénévoles sont intéressés, tu sais, on est une petite équipe, on est trois employés, là. Donc, on se concentre plus sur tout le Québec. Là.
Oui, oui.
Mais, donc, on a des groupes de soutien dans certaines places. Puis là, s'il y a des bénévoles, ben, on les soutient pour qu'ils partent des cafés-rencontres.
Oui.
Ce qu'ils font, c'est des échanges.
Oui.
Il y a des gens qui aiment. C'est sûr que c'est toujours intéressant de... d'échanger. Mm-hmm. Notre dernier volet, c'est de défendre l'accès gratuit, idéalement, au traitement, aux aides visuelles et aux soins. Donc là, c'est un volet qu'on développe de plus en plus. Et dans un monde là, où on voit que le système de santé, il faut jouer des coudes, toutes les causes sont bonnes, ben, il faut faire sa place, il faut se faire connaître.
Mais merci beaucoup, Sylvie. Ça a été un grand plaisir. Votre site Internet, c'est la QDM, en fait. On va avoir toutes les informations. Je remercie mes invités aujourd'hui. Sylvie Castonguay, directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire, et Rémi Deloume, qui est acteur, qui est venu aussi au premier bloc. Et moi, ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre belle émission de Mission Vision. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde de mon super partenaire. Et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!